Alors, pour finir cette émission, on reçoit Simon des Apatrides Anonymes. Bonjour, Simon.
Bonjour Catherine, ça va bien?
Oui, toi.
Oui, bonjour à tout le monde, à la maison ou dans leur voiture, pognée sur les ponts.
Bon.
Bon, je sais pas pourquoi je me sens comme à c'est quoi là. je vous ferai pas la météo. Aujourd'hui, ben, deux sujets principaux. Donc, une étude de l'IRIS qui est sortie très récemment sur les dépenses sécuritaires au Canada. On va terminer la chronique avec un résumé des différentes plateformes électorales des partis provinciaux qui sont actuellement en élection. Donc, pour ceux
J'avais
qui
juré que je
souhaitent.
Parlerais pas d'élection.
Bon, on ne parlera pas d'élection, de
OK.
stratégie. On va vraiment aller dans les plateformes des partis, ce qu'ils ont publié sur Internet, entre autres, et voir qu'est-ce qui se dit ou ne se dit pas sur l'immigration. Est-ce que c'est un débat? Est-ce que c'est un enjeu électoral majeur? On verra ça ensemble. Vous serez peut-être déçus, d'ailleurs.
Oh non.
Tout d'abord, peut-être une petite mise au point. J'aimerais compléter un élément dont on a parlé lors de la dernière chronique, c'est-à-dire l'abolition du programme fédéral des immigrants investisseurs. Donc, il y avait surpris pas mal de monde. Ça a été aboli par le gouvernement conservateur. Mais je profite de la tribune actuellement pour rassurer tous nos amis, nos contacts qui sont immigrants investisseurs. On en connaît sûrement beaucoup. Donc, qui ont un avoir net de 1,6 million et qui souhaitent investir 800 000 $ au Canada. Donc, tous nos amis, finalement. Chris Alexander a affirmé que tous les frais déboursés jusqu'à maintenant seront remboursés.
Ah, ouf.
Donc, parce que ces gens-là sont dans la misère, on s'entend là-dessus.
Chose qu'ils font pas avec les immigrants réguliers, j'imagine.
Non,
Tous ces
chose qu'ils ne
frais
font
qui...
pas, immigrants,
Jamais, là.
non, non, immigrants économiques, statut de réfugié, parrainage, tout ça. Non, non, si vous êtes débouté en commission ou en cours, les frais ne sont pas remboursables. Mais il faut dire que cette clientèle-là d'immigrants investisseurs ont peut-être les moyens de se payer des avocats
Ah, ça,
et de
c'est vrai.
poursuivre le gouvernement. Il y a une conférence de presse à Pékin, à Beijing, pardon, d'immigrants investisseurs qui se voient finalement refuser l'accès à ce programme-là. Et on y a dit que on perdait foi envers le Canada en tant que pays digne de confiance qui offrirait un environnement attrayant de justice et d'aide sociale. Donc, s'il y a des manifs, on vous tient au courant, mais ce serait un peu surprenant. Donc, avant de vous parler de l'étude de l'IRIS sur les dépenses en sécurité publique au Canada, je fais une petite parenthèse sur notre ex-ministre fédéral de la sécurité publique, Vic Theise. Il vient d'être nommé juge provincial au Manitoba. Son titre exact, juge de la cour du banc de la reine du Manitoba. Donc, il n'est pas nommé reine du Manitoba, il est nommé juge provincial. C'est une nomination partisane, évidemment, qui pose plusieurs questions, dont la soi-disant séparation des pouvoirs au Canada entre le judiciaire, le législatif. Donc, c'est un peu étrange. En général, les ex-ministres ou ex-députés, on les envoie, ben, soit ils s'enfuient au privé, où on les nomme OCA de différentes sociétés, ambassadeurs au Danemark. Il y a différents cas de figure, mais nommé juge, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, à suivre. Cette étude de l'IRIS qui est sortie récemment, je vais vous dire comment elle s'intitule. Ça s'appelle Les coûts de l'escalade sécuritaire au Canada. L'étude a été menée par les chercheurs Guillaume Hébert et Philippe Urteau. C'est très intéressant. Donc, tout le monde se doute, et même le gouvernement conservateur ne s'en cache pas, que les dépenses en sécurité publique, en défense nationale augmentent. C'est une des priorités. Mais tout ça est très bien détaillé, chiffré, avec des belles illustrations, des beaux graphiques. Ça nous permet de comprendre. C'est toujours très bien fait, comme toutes les études de l'IRIS, évidemment. Récemment, on vous parlait que ben, le ministre de l'Immigration, Chris Alexander, affirmait avoir réalisé beaucoup d'économies dans le domaine de l'immigration, donc au ministère de l'Immigration, et on supposait que beaucoup de ces économies-là étaient compensées par des dépenses, par toutes sortes de moyens de contrôle, de sécurité, de surveillance. Et effectivement, ça s'en va. Les budgets ont finalement été transférés vers la sécurité publique et la défense nationale, mais non seulement transférés, mais doublés, triplés, quadruplés, etc. Donc, l'étude se penche sur quatre principales organisations, donc qui sont l'armée canadienne, la défense nationale, les services correctionnels fédéraux, le Service canadien de renseignement de la sécurité et la Gendarmerie royale du Canada. En gros, on constate deux hausses significatives entre la fin des années 90 et aujourd'hui. Donc, une première après le 11 septembre 2001, évidemment, on a attaqué l'Afghanistan, ça coûte très cher. Et on s'est mis à instaurer toutes sortes de moyens de surveillance aussi, d'espionnage, peu importe. Et deuxième hausse significative, l'arrivée au pouvoir des conservateurs en 2006, si je me rappelle bien. L'IRIS prend quand même soin de mentionner que malgré l'augmentation de toutes ces dépenses militaires-là, il n'y a pas de menace militaire. Donc, il y a une quasi inexistence de menace, donc ça reste difficile à justifier. On justifie, comme je disais, par l'Afghanistan et aussi par le remplacement de matériel militaire, que ce soit remplacement achat de matériel militaire, donc les fameux avions CF-18 dont le contrat est toujours pas ficelé, des sous-marins, des drones même qu'on a achetés récemment, donc tout ça.
Là, la mission canadienne en Afghanistan, ça vient juste de se terminer, non?
Officiellement, on a rapatrié tous les soldats. Il y a encore plusieurs ONG qui sont là. Je ne sais pas s'il y a encore des agences privées de sécurité, par contre.
Probablement,
et je présume... Ben, en tout cas, je sais que récemment, on annonçait encore des programmes pour aller former la police en Afghanistan, par exemple. Donc, il y a encore une présence canadienne, mais je crois qu'il n'y a plus de soldats de l'armée canadienne, officiellement. Okay. Et ça ne veut pas dire la fin du colonialisme en Afghanistan, on s'en doute un peu. Donc, cette étude de l'IRIS sur les dépenses sécuritaires, donc elle se penche sur la période 1997 à 2013. Seulement pour l'armée canadienne, le budget entre 1997 et 2013 est passé de 16 à 26 milliards. C'est des gros montants, c'est des montants très importants, une augmentation d'environ 55 % en 16 ans. Pour ce qui est de la part du gâteau du budget fédéral, l'armée accaparait 6 % du budget auparavant, c'est maintenant rendu à 8 % Donc, beaucoup d'argent qui pourrait probablement servir à l'éducation, la santé ou stimuler l'économie, comme on entend souvent de la part des politiques. On rappelle que le gouvernement conservateur, en général, a suivi très fidèlement les recommandations d'une association qui s'appelle l'Association des industries canadiennes de défense et de sécurité, l'AICDS. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on justifie en général l'augmentation des budgets alloués à la sécurité publique et à la défense nationale. Donc, l'étude, je ne vais pas aller dans le détail pour les autres domaines, soit les services correctionnels, GRC, SCRS. Services correctionnels, il y a peut-être une petite note qui est quand même intéressante, c'est que tout comme le fait qu'il n'y a pas de menace militaire et qu'on augmente les dépenses militaires, pour les services correctionnels, il y a une baisse de la criminalité au Canada, mais il y a quand même une augmentation des budgets pour nos prisons fédérales. Pour ce qui est du SCRS, le financement entre 1997 et 2013, il a triplé, passant de 200 à 600 millions de dollars par année. La GRC, le financement a doublé, passant de 1,5 milliard à 3 milliards. Donc, assez de chiffres pour l'instant. Si vous voulez lire les détails, l'étude s'intitule « Les coûts de l'escalade sécuritaire au Canada ». Maintenant, on est en période électorale. Tu es très contente, je pense.
Oui.
on va regarder...
On a discuter, c'est... Ouais.
Ben, c'est un peu inévitable en même temps. Les médias, les bulletins de nouvelles, c'est rempli de ça. C'est quasiment à 100 %. Donc, l'immigration, est-ce que c'est un enjeu au provincial? Ben, il semble que oui, parce qu'on en parle quand même un peu. Je tiens à dire d'emblée que, bon, j'ai scruté le programme de 6 partis. On parle pas beaucoup d'immigration quand même en général, et c'est surtout des principes généraux plutôt que des mesures claires qui sont annoncées. Donc, des principes généraux, ça ne nous engage pas très fortement à porter une action si jamais on est élu.
Mais l'immigration, c'est pas de juridiction fédérale?
Ben, au Québec, c'est les deux.
OK.
C'est-à-dire qu'avant que le processus s'enclenche au niveau fédéral, les demandeurs doivent obtenir un certificat de sélection du provincial, sauf dans les cas de demande de statut de réfugié et peut-être d'autres programmes qui sont exclusifs au fédéral. Mais règle générale, c'est un jeu de ping-pong administratif entre le provincial et le fédéral. Le premier mot est au provincial, est à Québec. Le dernier mot, le mot définitif, donc l'acceptation finale, c'est le fédéral. Puis on est la seule province qui fonctionne comme ça. Dans toutes les autres provinces, c'est exclusivement fédéral. Donc, quelques omissions qui sont communes à toutes les plateformes. Par exemple, aucun parti ne mentionne un dossier chaud actuellement qui est l'accès à l'école pour les enfants de familles qui n'ont pas de statut. Aucune mention directe de ça dans aucun des programmes de parti. Aucun des partis ne se positionne clairement sur les politiques fédérales, à savoir ce qu'on doit les dénoncer, les appuyer, lesquelles sont légitimes ou non. Et aucun parti ne dit vraiment clairement vouloir renforcer la lutte aux discriminations, sauf celle liée à la reconnaissance de titres professionnels ou de diplômes étrangers. Ça, c'est quand même mentionné assez souvent. Donc, d'emblée, ben, je vous parlerai pas du Parti libéral parce qu'il n'y a pas de plateforme. C'est surprenant, mais en tout cas, j'ai regardé hier soir, là, le plus récemment, dans le site web du PLQ, pas de plateforme, donc on n'en parle pas. La CAQ, il y a une plateforme qui est apparue par magie jeudi soir, et on nage un peu en plein délire. Par exemple, le seul élément clair, la seule mesure qui est promise, c'est de rapatrier tous les pouvoirs en immigration à Québec, donc exclure le fédéral, mais je tiens quand même à mentionner que la citoyenneté, c'est fédéral. Donc, on nage un peu en plein délire, là, je dirais. Finalement, donc, il semble que la CAQ, on n'ait pas trop de notion de comment fonctionne l'immigration au Québec et au Canada.
On ne va pas généraliser sur la CAQ, mais
bon. Ben, si je me fie à la plateforme, évidemment. Donc, la plateforme, c'est quelque chose qui est officiel, qui a été en principe réfléchi, adopté. Donc, si on se fie à ça, ça va pas fort, fort. Le PQ, on sait déjà où il se situe, ben, avec la charte, évidemment, avec son annonce récente de vouloir diminuer les quotas en immigration au Québec, les quotas annuels, voulant les faire passer de 55 000 à 49 000 annuellement d'ici 2015. Sinon, le Parti québécois s'illustre par quelques énoncés. Je vais vous lire ça rapidement. Donc, augmenter la capacité d'attraction et de rétention des personnes immigrantes de la capitale. Donc, je ne sais pas pourquoi, on n'explique pas pourquoi on vise la capitale. Est-ce qu'il y a un problème de rétention des personnes immigrantes à Québec? Là, je ne veux pas vous faire peur, mais le PQ, s'il est élu, entend adopter une nouvelle loi sur l'immigration et instaurer une nouvelle façon de choisir les personnes immigrantes basée sur une déclaration d'intérêt. Donc, cette fameuse déclaration d'intérêt, on ne sait pas c'est quoi. C'est probablement relié à la charte et probablement qu'on voudrait faire signer les personnes immigrantes comme quoi elles acceptent d'embrasser les valeurs du Parti québécois. Là. Donc, à suivre. On veut offrir plus de soutien à l'apprentissage du français aux enfants allophones et ce, dès l'âge préscolaire. Donc, préscolaire, je ne sais pas si c'est à partir de 0,01 an, mais enfin, on insiste là-dessus. Mettre en œuvre des pratiques de francisation des travailleurs étrangers temporaires. Cela, je ne le comprends pas du tout. On manque de ressources pour les cours de français pour les personnes qui sont déjà acceptées ici, mais on voudrait augmenter le financement des ressources de francisation pour les personnes qu'on va expulser. Qui par contrat sont ici sur une base temporaire.
Qui ont besoin de plein d'autres services avant d'apprendre le français, Chris.
Oui, puis qui ont besoin de se faire former sur les normes du travail, entre autres, et sur leurs droits individuels. Oui. Fait que ça, c'est une mesure qui est un peu n'importe quoi aussi. Une autre, viser à ce qu'au moins 25 % des nouveaux arrivants s'installent à l'extérieur de la région de Montréal. Donc ça, on ne sait pas comment, peut-être par des mesures fiscales. Sinon... le temps file, on va passer à d'autres parties. Option nationale, quelques affaires comiques que j'ai trouvées là-dedans.
On va rire un peu.
Donc, faire de la connaissance fonctionnelle du français un critère préférentiel pour immigrer au Québec, c'est déjà le cas. Donc, merci de le rappeler. À l'exception des dossiers humanitaires, des demandes d'asile qui relèvent du fédéral. Donc, ça non plus, il ne semble pas trop connaître comment ça fonctionne. Accélérer la reconnaissance et le perfectionnement des professionnels de la santé. Mais les autres domaines, on ne le mentionne pas. On voudrait faire en sorte qu'un immigrant détenteur de certificat de sélection du Québec, si le Québec devient indépendant, il puisse conserver son certificat de sélection. Donc, on nage un peu dans la politique fiction ici. Il me reste très peu de temps. Écoutez, Québec solidaire a des mesures plus claires, donc je n'irai pas. Parti vert a quand même des mesures aussi assez intéressantes d'un point de vue social. Il s'attaque à la charte et au PQ et à ses quotas. Je voudrais finir très rapidement avec mon préféré, c'est le Parti conservateur du Québec. Mm-hmm. Ça existe, cette patente-là. L'équipe Adrien Pouliot, pardon.
C'est winner.
Le titre de la section immigration de leur plateforme, Immigration du travail avant tout, ça résume assez bien. On considère l'immigration exclusivement comme une ressource humaine ou une marchandise. Et je vous cite quelque chose. L'intégration ne se fait pas si les programmes sociaux sont trop généreux. Alors, ça termine ma chronique. Donc, une bonne campagne à tout le monde. On a hâte que ça finisse.
Oui,